D'habitude, la radio traditionnelle, on l'aperçoit un peu comme un simple bruit de fond.
Ouais, c'est clair.
C'est la petite voix monotone qui tourne dans les embouteillages ou la musique qu'on met en cuisinant.
C'est un média qui est devenu presque passif pour beaucoup de gens.
Exactement. Sauf que les documents qu'on explore aujourd'hui renversent complètement cette dynamique. En fait, on est en plein dans le mois de l'histoire des femmes et la source qu'on a sous les yeux nous montre une approche totalement différente.
Ah bah là, on est loin du bruit de fond, oui.
C'est le moins qu'on puisse dire. Le texte parle de la radio non pas comme d'un fond sonore, mais, et je cite, « comme d'une véritable arme de construction massive ». La mission de notre plongée du jour, c'est de comprendre comment une seule voix, armée d'un micro et d'une vision, peut réussir à rééquilibrer les récits médiatiques dominants et à relier des continents entiers.
C'est un programme assez ambitieux.
Oui, 13 ans. Bon, analysons un peu tout ça. Le document met en lumière une figure centrale pour illustrer ce basculement, c'est Félicité Amania Guervensant, la fondatrice de Radio Tam Tam Africa.
Ouais, et le vocabulaire que la source utilise pour la définir pose d'emblée un cadre très précis en fait.
Comment ça ?
Le document ne parle pas du tout d'une animatrice ou d'une journaliste au sens classique du terme. Il utilise des mots forts comme bâtisseuse d'espace médiatique et stratège de la parole.
Ah oui, stratège, carrément. C'est pas un terme qu'on entend souvent dans ce milieu.
Non, pas du tout. Historiquement, dans l'industrie de la diffusion, l'architecture d'un média, ça appartenait aux ingénieurs ou aux actionnaires qui possédaient les antennes, quoi.
Ouais, ceux qui ont l'argent et le matériel.
C'est ça. En se qualifiant de bâtisseuse, la fondatrice indique que l'enjeu, c'est pas seulement de produire du contenu pour une grille de programmes qui existe déjà.
D'accord, donc c'est plus profond que ça.
Totalement. Il s'agit de créer une infrastructure conceptuelle entièrement nouvelle, un espace qui permet à des voix marginalisées d'exister sans avoir à demander la permission à qui que ce soit.
C'est super intéressant cette idée de ne pas demander la permission. Et d'ailleurs, le point de départ géographique de cette infrastructure, c'est la première chose qui m'a sauté aux yeux en lisant le texte.
Ah, tu penses à la localisation, j'imagine.
Oui, voilà. Parce que Radio Tam Tam Afrique, ça naît en France en 2017, sous la forme d'une web radio indépendante.
Jusque-là, le format a l'air assez courant.
Oui, des web radios, il y en a plein. Mais l'ambition, en revanche, elle est complètement hors norme. Le but, c'est de tisser un lien direct avec les réalités du continent africain, de s'adresser aux diasporas et d'investir les scènes internationales.
Le tout depuis ?
Depuis Beson.
Dans le Val d'Oise.
Ouais, le contraste est saisissant.
Je suis fascinée, je n'arrive pas à concevoir comment ça peut fonctionner à une telle échelle, en fait. Attendez, créer un média mondial capable de décrypter les enjeux géopolitiques depuis une commune du Val d'Oise, sans un immense conglomérat derrière.
Ce qui est fascinant ici, c'est la démonstration concrète que la nature même du pouvoir médiatique a complètement muté. Muté, c'est-à-dire ?
Pendant des décennies, l'influence d'un média, ça se mesurait à la lourdeur de son infrastructure physique. La puissance, ça se calculait en kilowatts d'émissions, en hauteur de pylône ou en capacité d'impression pour la presse écrite.
Ouais, en gros, plus t'avais de gros câbles et d'antennes, plus t'étais puissant.
Exactement. Mais aujourd'hui, dans un écosystème mondial qui est saturé par un flux d'informations en continu, la véritable rareté, c'est plus la capacité technique de diffusion.
C'est vrai que n'importe qui peut lancer un live sur Internet aujourd'hui.
Voilà. La vraie valeur, elle réside dans la capacité à donner une voix à des territoires oubliés et à relier des réalités que les grands réseaux ignorent souvent.
Donc la technique n'est plus un frein.
Non. La web radio abolit complètement la contrainte de la frontière physique. Le flux de données, qui part de Beson, il arrive sur un smartphone à Dakar, à Montréal ou à Tokyo avec exactement la même clarté.
C'est dingue quand on y pense.
Oui, la géographie physique est remplacée par une géographie culturelle, une géographie d'affinité en fait.
Ouais. Mais du coup, la technique fournit le canal, d'accord, mais elle ne garantit pas l'écoute. Je veux dire, des milliers de web radios émettent dans le vide tous les jours.
Ah ça, c'est certain.
Et le document cite une conviction très ancrée de la fondatrice pour expliquer ce qui donne du poids à ce canal précis. Elle dit, et c'est une citation forte, « la parole est une force ».
Et cette notion de la parole comme force, ça change toute la mécanique de la diffusion.
Dans quel sens ?
Dans un modèle commercial classique, la parole, c'est juste un produit d'appel, tu vois. On diffuse de l'information ou du divertissement pour capter du temps de cerveau disponible.
Ouais, le fameux temps de cerveau qu'on revend ensuite aux annonceurs publicitaires.
C'est ça. Mais quand on considère la parole comme une force, l'objectif devient l'action, la mobilisation. Il s'agit vraiment de percer le brouillard des récits dominants.
Et un récit dominant, selon la source, ça ressemble à quoi ?
C'est souvent une simplification de la réalité qui est produite par les grandes agences de presse ou certains médias institutionnels.
D'accord, une vision un peu unilatérale des choses.
Voilà. En utilisant la web radio pour diffuser des analyses pensées par et pour les diasporas, cette initiative décentralise complètement la production du savoir.
Donc le lieu d'émission, Besonce en l'occurrence, ça devient quoi ?
Ça devient un simple centre de commande stratégique, quoi. Un poste avancé pour une guerre d'influence narrative à l'échelle mondiale.
Ah ouais, le terme « guerre d'influence » n'est pas trop fort. Mais cette volonté d'affronter les récits dominants, ça soulève un défi logistique colossal.
Oui, forcément.
Je me demande comment Radio Tam Tam Africa réussit à diffuser cette parole sans que son message ne soit dilué ou même contrôlé par le système qu'elle critique.
C'est là que le modèle économique entre en jeu.
Exactement. Le texte aborde de front la question de ce modèle économique et il le décrit comme étant radical. Il y a un refus total, catégorique, des financements par des institutions publiques ou par des intérêts politiques.
Aucun financement externe, donc.
Aucun. Le média est uniquement financé par sa communauté. Pour moi, c'est comme choisir de marcher sur une corde raide, mais sans aucun filet de sécurité en dessous.
C'est une bonne analogie, ouais.
C'est la différence entre louer un appartement dans un immeuble ultra sécurisé, où le propriétaire te dicte les règles, et construire sa propre cabane dans les bois.
Sauf que dans la cabane, tu dois tout faire toi-même.
Bah oui, dans la cabane, il faut couper son propre bois pour survivre au froid. Mais au moins, personne ne vient s'asseoir à ta table pour imposer ce qu'il est permis de dire.
C'est le prix de la liberté.
Mais, et c'est là que le bât blesse, couper son bois coûte extrêmement cher. Je veux dire, les micros, les serveurs, la bande passante, le temps de préparation des émissions, tout ça a un coût financier réel.
Ah bah totalement, la technique n'est pas gratuite.
Alors comment un média peut-il espérer survivre à long terme en s'appuyant uniquement sur une communauté ? Le risque d'effondrement financier semble permanent, non ?
C'est vrai que ça paraît périlleux. Mais si nous relions cela à une perspective plus large sur l'économie des médias, ce choix relève moins du risque que d'une nécessité stratégique absolue.
Une nécessité ? Ok. Pourquoi ça ?
Analysons un peu la mécanique de l'autocensure dans les structures traditionnelles. Lorsqu'un média dépend d'une subvention gouvernementale ou d'un pool de gros annonceurs industriels, bah une ligne rouge invisible se dessine naturellement.
Ouais, on ne mord pas la main qui nous nourrit.
C'est exactement ça. Personne n'a besoin d'envoyer un mémo officiel pour interdire de parler d'un sujet. La rédaction sait d'instinct quel sujet géopolitique pourrait froisser les bailleurs de fonds.
Et compromettre le budget de l'année suivante, évidemment.
Voilà. Donc le refus de tout financement institutionnel par Radio Tam Tam Africa, c'est finalement le seul mécanisme fiable pour effacer cette fameuse ligne rouge.
Ça a du sens. Et c'est ce qui donne tout son poids à la signature de la radio qui est rapportée texto dans les sources.
Ah oui, la devise de la station.
Oui, la source indique que leur devise c'est, je cite, « Ici, l'information ne se négocie pas, pas de censure, pas de langue de bois ».
C'est fort comme positionnement.
Très fort. Parce que sans le filet de sécurité de l'argent institutionnel, la seule ressource qui maintient les serveurs allumés, c'est la confiance directe des auditeurs.
C'est un lien très pur, en fait. Hein.
Oui. Si les animateurs commencent à adoucir leurs propos ou à utiliser la langue de bois pour ménager les intérêts obscurs, bah, la communauté s'en rend compte immédiatement.
Et elle retire son soutien financier.
Exactement. Et la radio s'éteint. C'est un mécanisme de responsabilité immédiate, quoi. Tu ne peux pas tricher.
Et du coup, le modèle économique devient de facto un contrat éditorial. La relation passe d'une transaction commerciale classique, où l'auditeur est le produit qu'on vend aux annonceurs, à un vrai pacte de soutien mutuel.
Un pacte de soutien, c'est un beau terme.
Et ce mode de financement transforme chaque émission en ce que le texte appelle un acte de résistance éditoriale.
Résistance éditoriale, ça implique quoi au quotidien selon toi ?
Résister dans ce contexte, c'est refuser de formater le temps de parole. C'est prendre le temps d'analyser une crise complexe en Afrique, par exemple, sans la réduire à une petite brève de 30 secondes coincée entre deux pages de publicité.
Ouais, prendre le temps d'aller au fond des choses sans pression de l'horloge commerciale.
C'est ça. Cette indépendance absolue coûte très cher en confort financier, c'est sûr, mais elle achète la liberté de peser et d'assumer chaque mot.
Sans craindre de représailles économiques extérieures. C'est fascinant. D'ailleurs, la troisième grande idée explorée dans les documents montre que cette résistance éditoriale va bien au-delà de la simple production journalistique.
Ah oui, on touche à un aspect plus culturel, là.
Exactement. Il s'agit de changer un paradigme culturel tout entier, en particulier pour les femmes. L'univers de l'analyse géopolitique et de la radio d'opinion, ça reste un milieu massivement dominé par les hommes, quand même.
C'est indéniable, oui.
Et le texte cite des émissions très spécifiques portées par cette initiative. Il y a la revue de presse africaine et une autre émission intitulée « La voix primordiale de l'Afrique dans le monde ».
Ce sont des titres qui en imposent.
Ouais, ça montre une volonté claire de se positionner sur des sujets durs, des sujets fondamentaux. Félicité ne cherche pas juste à exister, elle redéfinit ce que signifie être une femme dans ce milieu.
C'est-à-dire qu'elle ne demande pas une petite place au fond de la grille ?
Non, non. Il ne s'agit pas de réclamer une petite place dans la programmation d'un média qui existe déjà, mais de s'emparer directement de la chaire éditoriale pour informer sans compromis.
Et c'est là que la distinction entre l'intégration et l'émancipation prend tout son sens, je trouve.
Intégration versus émancipation. Tu peux développer.
L'intégration, ça exige de se plier aux règles d'un écosystème qui est déjà en place. Pour une femme dans un média traditionnel, ça signifiait souvent s'adapter à une culture de rédaction très masculine.
Ouais, gravir des échelons définis par d'autres.
Voilà, et potentiellement lisser ses amélis pour que ça corresponde au ton global de la chaîne. L'émancipation, en revanche, ça passe par la création de sa propre plateforme.
C'est un changement de posture radical.
Totalement. En concevant des espaces comme la voix primordiale de l'Afrique dans le monde, la fondatrice contourne les gardiens traditionnels du secteur.
Les fameux gatekeepers ?
C'est ça. Elle n'attend pas qu'un rédacteur en chef parisien valide la pertinence d'une perspective issue de la diaspora. Elle crée le studio, elle allume le micro et elle prouve cette pertinence directement auprès de l'audience.
La radio devient alors un véritable outil d'émancipation collective. C'est une réécriture complète des règles du jeu, en fait.
Ah bah oui, le document insiste vraiment sur ce point. Les femmes dans ce type de radio ne se contentent plus de suivre les formats imposés. Elles structurent une culture médiatique plus inclusive, plus consciente et audacieuse.
Et pour diffuser tout ça, la source mentionne l'utilisation de plateformes comme Mixcloud, par exemple. Et je trouve que le choix de Mixcloud ajoute une dimension hyper intéressante à la démarche.
Ah oui. Pourquoi Mixcloud particulièrement ?
Parce que ce n'est pas juste du direct éphémère qui s'évapore une fois que l'émission est terminée. Mixcloud, ça fonctionne comme une bibliothèque sonore mondiale, accessible à la demande.
Donc ça archive le contenu.
Exactement. Ça archive cette fameuse résistance éditoriale dont on parlait pour qu'elle puisse être écoutée, partagée et étudiée à travers différents fuseaux horaires.
Ce qui renforce l'idée de relier des continents.
Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au bout du compte ? Je veux dire, est-ce que le succès et la montée en puissance d'une initiative comme celle-ci, née en banlieue parisienne, ça prouve que les médias traditionnels ont chroniquement échoué à représenter sérieusement les diasporas ?
C'est une excellente question.
Ou alors, est-ce que c'est simplement le signe que la web radio est devenue l'outil démocratique ultime de notre époque pour contourner les vieux monopoles ?
Je dirais que l'un entraîne l'autre, en fait. L'essor d'un modèle communautaire strict révèle toujours une carence, un manque dans l'offre dominante.
C'est logique. On ne crée pas une alternative s'il n'y a pas un besoin.
Exactement. Si le public ressent le besoin de financer directement de sa poche un canal d'information alternatif, c'est qu'il perçoit un angle mort béant dans les journaux télévisés ou les radios nationales.
Les médias traditionnels peinent souvent à traiter ces enjeux transnationaux complexes.
Et surtout, ils ont du mal à le faire sans les filtrer par un prisme purement occidental, quoi. Parallèlement, la démocratisation des outils de diffusion, que ce soit l'hébergement cloud ou le montage numérique, ça fournit le levier matériel.
Ouais, l'outil est là, disponible pour tout le monde.
Mais l'outil technique seul, ça reste inerte. Des millions de web radios naissent et meurent sans aucun impact. Le vrai catalyseur, c'est la volonté d'utiliser cette technologie pour orchestrer un mouvement.
Et Félicité n'est pas seulement une voix, mais un mouvement elle toute seule, comme le suggère la source.
Exactement. Elle incarne cette dynamique collective qui prouve que la radio peut encore changer le monde et réparer les asymétries de l'information.
Tu sais, à l'ère de l'hypervisuel, des vidéos ultra courtes qui sont générées par des algorithmes juste pour maximiser l'addiction, y a quelque chose de profondément rassurant à voir que la simple voix humaine conserve un tel pouvoir de frappe.
C'est presque ironique, oui. Le retour à l'essentiel.
Ouais, une voix sans filtre, concentrée sur le fond et l'analyse, qui parvient à fédérer des communautés au-delà des océans. La démarche qu'on a soulignée aujourd'hui à l'occasion du mois de l'histoire des femmes montre bien que s'imposer derrière un micro n'est pas juste un acte de communication.
C'est un acte de rééquilibrage du monde.
Exactement. Pour synthétiser ce que les sources nous ont révélé au cours de cette exploration, on a vu comment l'initiative de Félicité Amaniara Vincent, lancée en 2017 avec Radio Tom Tam Africa, démontre que le point d'origine géographique, même s'il s'agit de besoins, ne limite plus du tout la portée d'un média.
Et cette portée mondiale, qui s'appuie sur des relais comme Mixcloud, elle n'est viable que grâce à une architecture économique totalement intransigeante.
Le fameux refus des subventions.
Voilà. Ce refus des subventions publiques et de la publicité traditionnelle, ça forge un modèle financé par la communauté qui garantit une indépendance éditoriale totale.
Ce qui empêche toute négociation sur la nature de l'information. Et cette infrastructure financière, elle sert de socle à une révolution plus large. Elle permet aux femmes de s'extraire des logiques d'intégration laborieuses au sein d'environnements médiatiques très masculins.
Pour privilégier une émancipation directe, oui.
En devenant elles-mêmes les architectes de plateformes d'analyse globale, bon, avant de refermer ce dossier, je pense qu'il reste une interrogation majeure pour l'avenir, un point de réflexion pour ceux qui nous écoutent.
Je t'écoute.
Si une seule web radio, financée par ses auditeurs et portée par une vision sans aucun compromis, réussit à court-circuiter les récits dominants et à construire un pont intercontinental aussi solide, est-ce que cela annonce la fin prochaine de l'influence des immenses conglomérats médiatiques ?
C'est une vraie question.
Est-ce que les vérités de demain seront exclusivement dictées par une myriade de voix hyper indépendantes et décentralisées, capables de transformer chaque microphone en un centre névralgique de résistance, plutôt que par des institutions centralisées ?
La décentralisation de l'autorité médiatique modifie en profondeur la manière dont on s'accorde sur ce qui constitue la vérité. C'est une dynamique qui va inévitablement s'accélérer avec la multiplication de ces initiatives.
Quiconque écoute la radio demain matin ou lance une émission en ligne pourra y réfléchir. Derrière le grésillement ou le clic de lecture, il ne s'agit peut-être plus d'un simple bruit de fond pour meubler le silence.
Ça pourrait bien être le son d'un nouvel espace médiatique en pleine construction.
Construit sans filet de sécurité et prêt à redessiner les contours de la culture mondiale. Que chaque esprit reste critique et alerte face aux flux constants d'informations.
Merci à tous et à très bientôt pour continuer à décortiquer ensemble ce qui façonne notre compréhension du monde.